Seigneur, merci. Ta parole est précieuse, plus précieuse de l'or. Plus précieuse, Seigneur, infiniment. Et tes paroles sont esprit et vérité. Chaque parole qui sort de ta bouche, on est là pour te glorifier. Enseigne-nous, s'il te plaît. Merci. Que le message précieux ce soir va avoir une place éternelle dans nos cœurs, une construction dans nos âmes, et quelque chose d'éternel pour les gens qui écoutent maintenant et ceux qui peut-être dans l'avenir vont écouter sur le site. On ne sait pas quelle est la conséquence, le résultat. Une âme sauvée, un âme transformée. Tout est pour notre bien et profitable pour nous. Merci Seigneur. Amen. Okay. Ce soir, je propose de parler d'un sujet qu'on a abordé un peu, donc un lien avec le message de dimanche matin. Dimanche matin, Jean chapitre 10, le bon berger. Et on a parlé de comment les brebis connaissent la voix du bon berger. Et on a expliqué, si je me rappelle, cette caractéristique. Cette caractéristique, on entend quand on écoute la voix de Jésus-Christ. C'est des caractéristiques qu'on ne trouve pas dans ce monde. Ce soir, et bien sûr, ce message va être disponible sur le site bientôt. Ce soir, je voudrais proposer de parler d'un sujet, si on peut donner un titre. On titrait les prédicateurs sincères ou les frélateurs, les falsifieurs, ceux qui falsifient la parole de Dieu. Frélateurs. Ok. On va utiliser un autre mot. Charlatan, falsifieur, hucksters en anglais, ou ceux qui ne sont pas du tout sincères. Ok, on laisse tomber le titre dans ce sens, parce que j'ai bien préparé et vérifié avec Google Translate si ce mot existe. Je vais expliquer pourquoi. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17. Car nous ne sommes pas comme plusieurs qui flattent la parole de Dieu, mais comme avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant Dieu, nous parlons en Christ. Le mot dans le Darby traduit frère latin. Le mot dans le second parle de falsifier. Donc c'est de amener une corruption dans le message enseigné. Et je regarde le mot kapaleo signifie un colporteur, un colportage, nous avons sur les placards dans les appartements d'or qui dit colportage, pas permis, c'est interdit. L'indication, c'est de falsifier quelque chose, c'est d'amener une corruption. Donc, c'est évident, on parle de certains, plusieurs, qui falsifie la parole de Dieu. C'était le cas dans le temps de Paul. C'est le cas beaucoup plus maintenant. Mais la bonne chose, la chose où on peut être encouragé, est que nous avons les prédicateurs sincères. Je suis sincère, Jésus-Christ est communiqué. Et ça, c'est toujours notre but, et d'amener la parole de Dieu, de diviser dans les catégories et d'amener dans les doctrines claires, afin que ça va être une construction pour chacun de nous. Le dévotion de lundi matin, c'est des mardis matins, parlait d'un aspect et de grandir dans la grâce. On a parlé de la disciplinaire, et un aspect de la disciplinaire est de grandir. Ça veut dire qu'on n'est pas mûr, on a besoin de grandir dans le Seigneur. En partie de ça, et c'est important pour nous, et de comprendre qu'on communique la parole de Dieu sincèrement, avec intégrité, les conséquences et les gens sont rendus libres, et les gens peuvent grandir, et en plus de ça, il y a une transformation dans les pensées afin que chacun peut penser avec Dieu individuellement. Ce n'est pas le contrôle dans une secte ou culte, qui chacun est conformé d'apporter les mêmes vêtements et de penser et avoir le même langage. La beauté de le corps de Christ est qu'on est tous uniques. Chacun avec son propre langue, expérience, passé, façon d'exprimer. C'est intègre et ça amène aux gens que nous sommes sincères. Nous avons Christ dans nos vies. Et donc, de parler ce soir, de retourner au sujet, on va parler de la différence entre ceux qui prêchent avec sincérité et ceux qui rendent la parole corrompue, ceux qui sont faux. Et une des choses, on peut dire tout de suite, l'agenda. Quelle est la motivation? Le mot clair ici, c'est clair pour moi quand je regarde. Il y a un amour. Le prédicateur sincère va donner sa vie comme le bon berger dit, je donne ma vie pour les brebis. Il n'est pas là pour le salaire. Le mercenaire, le serviteur, gagne un salaire. Et lui, quand le loup arrive, il chasse pas le loup, il court dans l'autre direction. Il laisse les brebis d'être dévorées par les loups. Et donc, le bon berger dans sa vie, les bergers et les prédicateurs que Dieu voit, comme Paul, comme Timothée, comme Pierre, comme Jacques, comme Jean, comme tous les prédicateurs, tous les hommes de Dieu, choisis d'être, de pétrer, de garder le troupeau, et dans ses vies. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14, l'amour de Dieu m'oppresse, Paul dit. L'amour de Dieu m'oppresse. Je suis pressé par l'amour de Dieu. J'ai une motivation. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ça veut dire de nouveau, c'est la grâce de Dieu dans la vie de le prédicateur, du prédicateur, qui est une motivation. Paul parle clairement de le fait qu'il ne cherche pas de choses sauf pour un entrée de voir les gens sauvés et de voir les gens grandir. Jean a parlé en 1 Jean qu'il a une joie quand il voit les enfants de Dieu marcher dans la lumière. Il dit qu'il se régale quand il voit ça. Et un prédicateur dans la justice de Dieu, sincère, aime de voir les gens avec les vies transformées. Je ne parle pas de ça très souvent, mais je vais parler de ça ce soir brièvement. Le premier, quelques ans que je suis pasteur de cette église, après la transition, après on est rentré des États-Unis, je n'ai pas reçu un salaire chaque mois. Donc, je ne peux pas entrer dans les détails, ce n'est pas nécessaire, mais simplement de dire, j'ai voulu de servir le cours de Christ, que j'ai accepté de laisser tomber mon travail bien salarié, quitter les États-Unis, rentrer avec ma femme, recommencer de nouveau et de servir l'Église avec une conviction que je suis là pour servir, pas pour gagner un grand salaire suisse dans une grande entreprise. Et c'est possible. Mais décider de servir le corps de Christ. Paul, un bon exemple de Paul. Lui, il était un faiseur de tentes. Donc son profession, à part de l'évangile, à part de son ministère, est de faire les tentes, construire les tentes. Et avec Aquila, il a fait exactement ça à Corinthe. C'est une implantation de nouvelle église. Commence jusqu'au premier étage, jusqu'à comme ça. Lui, il a servi l'église, il n'a pas demandé l'argent. Il a continué de travailler, pas plein de temps, mais il a travaillé, mais au même temps de servir une assemblée naissante. On peut dire que c'est le début de l'église. Sincère. Le pasteur ne cherche pas pour l'argent. Un des critères de Greater Grace, les églises de la grâce, les assemblées de la grâce, pour un pasteur est des choses pour éviter, c'est l'argent. Il ne touche pas l'argent, il n'a pas une entrée à l'argent. Est-ce qu'on doit gagner nos vies? Oui. Mais comme le bœuf, dans cette illustration, le bœuf a le droit de manger ce qu'il quand il fait le travail. Je cherche pour le mot, je n'arrive pas, mais simplement de dire, quand il laboure le grain, il a le droit de manger le grain aussi en même temps. Et pour utiliser cette illustration, on peut dire le pasteur a le droit de manger parce qu'il est en train de travailler. Donc il a dit, sa salaire est mérité parce qu'il laboure, il travaille dans la parole de Dieu pour servir les autres. Le falsificateur, quel est le mot on peut l'utiliser? Charlatan, on est content avec ce mot, charlatan? Ok, le charlatan, ça c'est facile à remember, à rappeler parce que nous avons le même mot en anglais. Ça but en Philippiens chapitre 15, 1, verset 15, Philippiens 1, 15, et il cherche de prêcher la parole pour détruire Paul. Ça veut dire Paul était en prison pendant il a écrit cette épître. Il a dit, la parole est prêchée. Christ est prêché. Je suis content. Certains font ça avec une mauvaise motivation afin de mettre plus de tribulation pour moi. Parce que je suis en prison, donc il fait plus afin que j'ai plus de problèmes. Des autres font ça avec une motivation d'amour. Charlatan cherche des problèmes. Son idée est d'amener les disputes. Il est envieux. Il a une envie. Donc, derrière de son ministère est toujours un mauvais cœur. Il cherche l'argent. 1 Timothée chapitre 6, verset 5. Il cherche l'argent, il pense que c'est une gaine. Il peut gagner quelque chose par la parole de Dieu. Apparemment. Un bon exemple de ça est Simon le sorcier. Actes chapitre 8, versets 18 et 19. Cette personne a demandé à Pierre, après apparemment il était baptisé, par Philippe. Il a demandé à Pierre, quand il a vu Pierre qui a mis et imposé ses mains sur certains gens qui acceptaient Christ, le Saint-Esprit est descendu, c'était le début de cette dispensation de l'Église. Donc, c'était certaines choses qui a passé que nous n'avons pas maintenant. Il a dit, est-ce que je peux acheter ce droit de faire ça, afin que chaque personne que je me pose les mains, le Saint-Esprit va descendre. Et Pierre a dit, tu veux acheter le Saint-Esprit, tu veux acheter ce que Dieu a donné comme un don, c'est horreur, c'est abominable. Mais ça montre un cœur d'iniquité que c'est possible pour quelqu'un de penser qu'il y a une gain, il y a un profit, il y a quelque chose qu'on peut acheter. Pour moi, c'est hors de sens, mais le charlatan cherche un avantage pour lui-même. Je vais juste terminer ça et donner une parenthèse. L'Église n'est pas une place pour le travail. Ce n'est pas une place pour moi d'amener le monde. Ce n'est pas une place. Ok, peut-être je vais être plus restreint avec mes paroles. On doit être très prudent, la motivation que nous avons d'être dans une Église. Très prudent. Est-ce que c'est pour Dieu ou est-ce que c'est pour d'autres choses? Nous avons un cœur, nous avons deux cœurs, il faut faire attention. Quelle est la motivation? Pourquoi que je suis à l'Église? Finalement, toutes les choses éternelles vont rester, toutes mes motivations faux, comme la poussière. Devant le trône de Dieu, tout ça va apparaître. Quelle est ma motivation, vraiment? Je termine cette parenthèse, mais ça m'énerve beaucoup quand je vois les gens qui viennent pour chercher, pour faire un business dans l'Église. Nous avons expérimenté ça dans le passé avec quelqu'un qui essaie d'être vendeur, de vendre des choses. Ça, c'est pas, on n'est pas un business. L'Église est la place de Dieu, la maison de Dieu. L'Église n'est pas ce mur, c'est nous. Et les brebis, les brebis doivent être protégés. Et quand quelqu'un dans une conférence de Greater Grace vient pour chercher d'essayer de vendre certaines choses à moi et mon pasteur dans le passé, qu'est-ce que se passe? On est dans une conférence, on est là pour la parole de Dieu et la communion, on n'est pas là de faire le business. Ça va ou quoi? On n'est pas des charlatans, mais on voit les charlatans. Et je suis convaincu que l'Église est en train d'être préparée pour certaines choses dans le futur. Et si je prêche un message comme ça ce soir, c'est de protéger chacun de nous parce que vous êtes précieux. Vous êtes précieux sur Zoom. Vos vies. Ce n'est pas une petite chose. Quand je pense à ça, je pense à votre protection, notre protection. Chacun doit avoir un discernement. Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai? Deuxième chose, le prédicateur sincère, il tremble à la parole de Dieu. Psaume 119, verset 161. Les princes me persécutent sans une cause, mais je reste émerveillé devant ta parole. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 11. Émerveillé dans la présence de Dieu. Le prédicateur, comme l'orateur, comme l'adorateur, comme chaque enfant de Dieu, on est appelé d'avoir une révérence pour cette parole. Il est du sang en chaque page. Il est des gens qui meurent pour cette paroles. Ce n'est pas un livre, c'est les pensées précieuses de Dieu. Pourquoi que quelqu'un cache une Bible en loué et entre dans un pays que c'est interdit d'avoir une Bible? Et pourquoi les gens cachent les Bibles pour amener aux autres dans un pays que c'est interdit? Ils risquent ses vies pour ça. Et le prédicateur sincère est sincère avec la parole de Dieu parce qu'il ouvre la parole de Dieu. Il dit, waouh, chaque parole, chaque chapitre, chaque livre, Jésus-Christ est révélé. C'est des secrets de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de banal. C'est quelque chose de tellement précieux, plus précieux que tout le monde. Donc, il ne peut pas avoir une attitude légère, à la légère, je crois l'expression. Il ne peut pas prendre les choses à la légère. Son attitude est, il tremble à la parole, il a une révérence pour la parole. Wow! Ça, c'est le prédicateur sincère. Le charlatan, il utilise la parole de Dieu facilement pour supporter et aider ses argumentations. Il était un homme qui était avec les pères fondateurs des États-Unis. Cet homme, je cherche pour son nom, a manipulé le peuple. Il a fait des divisions et des problèmes partout. Né en Norfolk, Thetford, Norfolk, Angleterre, et je cherche pour le nom, mais je ne trouve pas tout de suite, mais quelqu'un célèbre, quelqu'un intellectuel, quelqu'un qui a donné les philosophies. Et maintenant, toujours, il a un imprimeur, un ancien imprimeur, pour imprimer les traités. Parce que quand il a fait un discours, une discussion, une argumentation, il imprimait en papier pour distribuer partout et c'était quelque chose qui a touché beaucoup de monde. Beaucoup sont influencés par lui. Pourquoi que je parle de cet homme? Parce que Louis Thomas, oh, Thomas Chain, Thomas, non, c'est pas important. Louis était convaincu qu'il peut utiliser la Bible pour citer ses argumentations, pour confirmer que le roi et les rois dans les gouvernements sont par la volonté de Dieu. Mais après ça, il a imprimé un autre document qui expliquait qu'il pense que la Bible est une horreur et n'importe quoi. Et je lis certaines citations de ça, j'ai pensé, wow, il manipule la parole de Dieu. Thomas Paine, wow, il a manipulé et dit la parole de Dieu est utile pour moi de citer ce que je veux. Mais après ça, c'est rien. Ça, c'est le charlatan. Il utilise la parole de Dieu à la légère. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire avec cette personne qui fait ça. Et c'est sérieux. Cette parole est vivante. Cette parole est la pensée de Dieu. Et un charlatan va utiliser ça à la légère. La troisième chose, le prédicateur sincère. Il a un discours simple. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Ce n'est pas rester avec la sagesse humaine. Paul, faible, devant l'église de Corinth. Quand il est venu, il était faible, petit, avec une voix un peu comme ça. J'ai entendu que sa voix était méprisable, que son apparence était méprisable. Mais quand il a prêché la parole de Dieu avec puissance, avec simplicité, les gens sont touchés. Dieu veut utiliser les choses folles de ce monde pour détourner et moquer les choses sages de ce monde. Il veut utiliser les choses simples pour la gloire de Dieu. Ça, c'est la raison pourquoi qu'un Anglais ou un Américain ou un Français ou un Suisse ou comme vous voulez, quelqu'un simple qui prêche la parole pour Dieu est plus important qu'un orateur intelligent, diplômé, qui a un discours impressionnant. C'est des choses simples qui comptent. Paul a parlé de ça également quand il a parlé d'une grande simplicité. Il parle de ça en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 12. Il a dit, je vais parler fraîchement. Je peux parler ouvertement et directement. J'ai une liberté d'exprimer la parole de Dieu. Il a dit, je sens que j'ai le discernement, la liberté de dire de mon cœur, communiquer aux Corinthiens ce que Dieu a mis dans mon cœur, afin que vous pouvez écouter et recevoir, accepter et être transformés. Des fois, c'est limité. On ne peut pas toujours dire certaines choses, mais dans le pupitre, des fois, je sens une liberté de sortir de message dans une parenthèse qui est importante. Des fois, je ne sens pas la liberté. Ça dépend. C'est un mystère, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est la simplicité de la parole de Dieu. C'est la simplicité de la foi. Le charlatan, son discours est impressionnant. Probablement très doué. Langage, prononciation, très impressionnant. Mais la substance, c'est rien. Parce que le contenu est juste des mots impressionnants et sages humainement, mais il n'a pas la vie de Dieu. Et ça, c'est un charlatan. Il cherche d'être impressionnant. Je préfère la simplicité. Je pense que vous préférez et la simplicité aussi, parce que la puissance de Dieu vient de ça. Quatrième, ça c'est important, un prédicateur sincère est quelqu'un stable. Stable. Je vais dire quelque chose. On est tous en train d'être transformés dans cette sanctification. Ça veut dire personne n'est parfait. Personne, il faut ne pas accepter de penser que d'accepter d'être coupable de la chose que je vais dire prochainement. Mais un des aspects pour un pasteur, pour un ancien, est d'avoir une vie en ordre. Ça veut dire qu'il doit gérer sa propre maison. Il doit avoir, c'est 1 Timothée chapitre 3, verset 4. Lui doit gérer son propre maison. Comment il va gérer l'église s'il ne peut pas gérer son propre maison? Est-ce qu'on est parfait? Non. Est-ce que nous avons des fois un peu de désorganisation? Oui. Est-ce qu'on manque dans certains domaines? Oui. Est-ce qu'on a besoin de Dieu de nous aider? Oui. Mais c'est un processus. S'il y a un ordre ici dans le cœur, comme Dieu veut, il va un ordre externe. Ça commence dans le cœur. Il faut avoir des pensées disciplinées, organisées. Je parle à moi-même, je dois avoir ça de plus en plus. C'est un processus avec le temps. On va voir en Hébreux chapitre 13, verset 9, le prédicateur va avoir le cœur affermé par la grâce, raciné, stable dans la vie, dans la grâce. Il n'est pas tout des vagues avec les faux doctrines qui viennent. Il avait des tendances partout dans la vie chrétienne, dans le christianité en total. Nous avons dans le monde chrétien certaines vagues, il fait certaines choses, pas des autres choses. Il faut rester stable, ces choses ont changé, mais la vie de Dieu ne change pas. La vérité, la parole de Dieu ne change pas. Racinez. Ephésiens chapitre 3, verset 17. Enracinez et fondez dans l'amour de Dieu. Quelle est la place la plus sûre? Aimez pas Dieu. Simplement, laissons Dieu nous aimer. Laissons Dieu nous aimer. Il nous aime. Acceptons l'amour de Dieu. Acceptons d'être racinés. C'est le secret pour le célibataire, c'est le secret pour le divorcé, c'est le secret pour le marié, c'est le secret pour le jeune, c'est le secret pour le plus âgé en retraite. C'est le secret pour les familles. D'avoir une racine solide et fondée. Nous avons acheté des tomates dernièrement, nous avons dans le dépôt. Pour le tomate de sauter comme ça vers la lumière, il faut avoir la stabilité, il faut avoir les racines. C'est le même pour nous. Avant, on va grandir visuellement, physiquement, ici, la racine spirituelle doit être solide. Sinon, on ne peut pas bouger. Et donc, si c'est vrai dans la vie biologique, si c'est vrai dans les illustrations, c'est vrai dans la vie chrétienne aussi, la vie spirituelle. Raciné, stable dans les moments difficiles. C'est pourquoi que Paul peut être stable dans un bateau, dans un naufrage. Il était sûr quand tout le monde était bouleversé par les orages, par les vents, par la mer. Il a une stabilité sûre et une place, un lieu secret avec le Seigneur. Wow, le charlatan est totalement instable. Totalement. 2 Pierre chapitre 3, verset 16. Instable et ignorant. Ignorant pourquoi? Parce qu'il n'accepte pas d'être enseigné. Parce qu'un charlatan ne peut pas être soumis. On a parlé de la soumission et la couverture de Dieu récemment, non pas dernièrement, mais dans cette période, cette saison. Pour être grand avec Dieu, il faut être rien. Il faut être un zéro. Et d'être couvert par Dieu, soumis, ça amène à une humilité, d'accepter que je n'ai rien à donner à Dieu. Mais si je suis un rep sceptique pour Dieu, il va m'utiliser puissamment. Sincère, stable ou instable. Donc un frilateur, pardon, un charlatan. Instable, désorganisé dans ses pensées. Qu'est-ce qui va passer? La destruction, sa vie. Ok, je vais chercher pour un bon mot, le chaos. Parce que si ça ne va pas dans le cœur, ça ne va pas dans la vie non plus. On connaît un arbre par ses fruits. Si on voit les fruits de quelqu'un qui était complètement désorganisé, mais il prêche quelque chose qui est contraire de ça, hypocrite. Physicien, guéris-toi-même, Jésus a dit. Ça veut dire, on met en pratique premièrement, les choses en vie. Idéalement, pour un pasteur, quand il prêche, il vit les choses qu'il prêche. Avant, il prêche. Et après, il va vivre les choses qu'il prêche aussi. Parce que c'est pour lui. Et après, c'est pour les autres. Et je dois accepter que je suis devant lui. Je dois avoir un émerveillement. Que je suis devant mon Dieu. Et mes vies. Par Dieu. Il dit, waouh, je suis sondé mon cœur, Psaume 139, sondé mon cœur. Donc, une stabilité. Et de nouveau, je vais répéter, ce n'est pas pour amener les gens aux culpabilités qui écoutent ce message, c'est d'accepter ce processus. La seule condition est que nous sommes humbles. Et on peut accepter d'être enseigné. Chacun de nous. Chacun de nous. Soumis, couverture, protégé. Et si nous avons ça, on va avoir des orages, on va avoir des problèmes, on va avoir des désorganisations dans la vie, parce que la vie est difficile. Mais Dieu va être notre force et tranquillité dans ces temps, et donc une stabilité contre le vent. Dernier point. Quelle est la dernière différence que je voudrais aborder ce soir? Actes chapitre 19, verset 15, parle de les fils de Sceva. Sceva était un sacrificateur. 7 fils avec aucune autorité. Je crois que c'est Actes chapitre 19, verset 15. Dans ce passage, ces gens qui ne sont pas du tout croyants, pas du tout d'accord avec Jésus, utilise le nom de Jésus que Paul prêche pour chasser les démons. Les démons ne sont pas impressionnés du tout. Ils ont dit, on connaît Jésus et on connaît Paul, mais vous êtes qui? Ça veut dire que vous n'avez aucune autorité. Premièrement, le prédicateur, le vrai prédicateur de la grâce, le vrai prédicateur sincère, il a une autorité. Peut-être il est petit, peut-être il est grand, peut-être il parle un peu difficile de sauter les mots. Peut-être il est très élégant, peut-être pas. Peut-être plus âgé. Ça, ce n'est pas important. Il a une autorité. Chacun de nous, le plus on marche avec le Seigneur, le plus que nous avons une autorité de communiquer. Christ. Et les gens voient ça. Et les démons totalement voient ça. Quand on parle, combien de fois on ne sait pas parce que c'est invisible. Mais l'atmosphère est cassée parce qu'on loue Dieu, parce qu'on prie, parce qu'on prêche, quand on parle de le nom de Jésus-Christ. Les démons fuient. Parce qu'on est en autorité, parce que Dieu habite en nous. Et quand on déclare quelque chose, on est plus puissant de tous les démons. Le saint le plus faible dont les démons ont peur quand ils prient. Ce n'est pas une question de si nous sommes forts dans la foi, mais si on applique la foi, le peu que nous avons, c'est quelque chose qui reste contre les démons. On est autorité, on est plus d'autorité. Et les fils de Sceva peuvent faire tout le bruit qu'ils peuvent. L'autorité est liée pas avec le volume de voix, de parler fort, non. De crier, de parler beaucoup de mots, de citer beaucoup de versets de la Bible. Jésus a dit, sors. Et le démon légion a sauté, comme ça, sort. Il parle et Lazare sort. Lazare sort. Ressuscité. Quelle autorité. Et le croyant, le disciple de Jésus-Christ, le croyant dans l'Église, le saint, nous avons une autorité. Le prédicateur, quand il prêche, il a une autorité. Il est sincère, il amène la parole pure, en contexte, dans les catégories de doctrine. Et comme Paul, c'est une démonstration de l'Esprit. C'est une démonstration de la puissance de le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste les paroles. On erre comme ça. Mais le charlatan, on a déjà vu. Avec quelle autorité que vous avez, fils de Sceva, vous avez une autorité. On connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous, vous êtes qui? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont attaqués par cet démon, cet homme démoniaque. Ils ont chassé d'or. Cet homme, la puissance diabolique, on ne peut pas jouer avec ça. Mais avec Dieu, couvert par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, on a telle authority. C'est la vraie chose. C'est pas une petite chose. Ce soir, pour conclure, il faut discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Ce vient de la royaume de Dieu, ce qui vient de la royaume des démons. On est capable de discerner quand quelque chose est faux. On a déjà parlé de la voix de bon berger et les voix des démons et du monde. On entend de Dieu une voix claire, simple, précise. On voit de ce monde beaucoup de bruit, beaucoup de confusion. Mais notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas Dieu de confusion. Et donc, discernons, est-ce que quelque chose vient de Dieu ou de notre esprit? Nous avons beaucoup de charlatans. C'est possible de taper sur YouTube ou un autre média et écouter beaucoup de messages de beaucoup de prédicateurs. Très bien. Est-ce qu'on peut voir ces vies? Est-ce qu'on peut voir le chaos peut-être de quelqu'un qui passe une heure de faire le spectacle et de crier et de citer un verset biblique et le reste c'est un circus, un cirque avec les clowns, avec le spectacle, avec des éléphants, peut-être. Mais ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas l'Église. C'est un charlatan. On voit un charlatan. Des fois, quand j'entends de quelque chose, je peux dire en 2 minutes si c'est vrai ou faux. Pas besoin d'écouter une heure. Est-ce que nous avons une voix? Est-ce qu'on entend la voix? Est-ce que nous avons cette oreille qui écoute et dit, ça c'est vrai, ça c'est vrai, j'écoute ça. Le plus on avance dans l'enseignement, le plus on va avoir cette capacité, cette capacité de discerner. Et donc dans les derniers temps, je vais terminer avec ça, 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Dans les derniers temps, les temps dangereux, il va y avoir les démons qui enseignent les doctrines. On va avoir plus. 2 Timothée chapitre 4. Ceux qui ramassent beaucoup de prédicateurs pour caresser les poils dans la bonne direction, mais pas être confrontés par quelque chose qui va amener un défi, qui va foncer la chair. Donc, on est un peuple qui va être toujours confronté par l'esprit et de ma meilleure, tout ce qui est en moi, la possibilité de faire, je vais toujours prêcher ligne par ligne la parole de Dieu. Afin qu'on est formé, préparé, prêt pour l'avenir. Pas des charlatans, mais les prédicateurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prions avec moi. Merci Seigneur, parce qu'il y a un prix à payer pour ça. Mais c'est le prix le plus précieux du monde. Les âmes sauvées, les âmes protégées, les âmes préparées pour quand tu vas revenir pour l'éternité. Merci pour l'Église, merci pour le pupitre, merci pour la parole de Dieu. Merci de bénir chacun de nous, prends soin de nos familles. Encourage-nous particulièrement ces moments sur la terre, ces moments difficiles avec nos familles, avec notre travail peut-être, avec cette pandémie. Nous avons besoin de toi. Merci Seigneur. bénis notre soirée maintenant, la fin de cette culte. Merci. Amen.